Bien, bonsoir à chacune, à chacun. Merci d'être ici ce soir avec nous, en plein cœur de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Prière qui, ici, dans le cadre de ce Centre Sèvres, faculté de philosophie et théologie de la Compagnie de Jésus, nous engage au dialogue théologique et à la prise au sérieux de l'histoire dont toute théologie est marquée. Nous sommes en 2014. Dans 3 ans, sera commémoré le 500e anniversaire de la réforme protestante. Le 31 octobre 1517, Luther publiait ses 95 thèses sur les indulgences. Thèses écrites en vue d'un débat académique, thèse aussi envoyée à tel ou tel évêque. Et ce texte aboutira à une dispute moins académique et sereine que prévu. Ces événements marquent le début de la réforme protestante et le 31 octobre, toujours commémoré dans les églises qui s'en disent héritières, symbolise le début de cette réforme. Nos mémoires respectives restent marquées et différemment marquées par ces événements. Comment faire mémoire sans raviver des polémiques devenues obsolètes au vu du chemin œcuménique parcouru ensemble? Telle était la question des instances qui demandèrent à la Commission mixte internationale luthéro-catholique de travailler afin de nous proposer rien moins que commémorer ensemble un tel anniversaire. Ces instances, la Fédération luthérienne mondiale, d'une part, et le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, d'autre part, donc un dicastère du Vatican, figurent d'ailleurs en bonne place comme les directeurs de publication dans l'édition anglaise du document. Ça veut dire que ce n'est plus seulement un document qui a été écrit par une commission, certes, mais que proposent ces instances à notre lecture. Ce texte, publié en juin, est désormais accessible en français grâce à la revue Istina, qui en a fait, en un temps record, une traduction française. Et en français, il s'intitule « Du conflit à la communion », ça c'est le titre, et le sous-titre « Commémoration luthéro-catholique commune de la réforme en 2017 ». Ce texte est un événement, même si à première vue le titre ne nous surprend guère, « Du conflit à la communion ». Nous sommes si habitués à ce que des commissions nous servent des textes de dialogue et nous redisent que nous allons de l'unité vers la communion. Mais le sous-titre, par contre, attire notre attention. Commémoration luthéro-catholique commune de la réforme en 2017. Commémoration commune. Est-ce vraiment possible? Comment? Eh bien, ce texte arrive à point nommé pour offrir quelques réponses à ces questions. Notre soirée a pour projet d'y introduire. 3 amis vont nous y aider. Michel Fédou, jésuite, membre de la faculté de théologie du Centre Sèvres, où il enseigne la théologie dogmatique, la patristique, et membre non seulement du groupe des Dombes, mais de la commission internationale qui rédigea ce texte. Il nous le présentera, il est très bien placé pour nous en dire l'histoire, pour souligner à quoi il nous appelle, sans oublier de laisser paraître ça et là l'expérience qu'il fit lui-même à cette occasion. Frédéric Chavel, pasteur de l'Église protestante unie de France, desservant actuellement la paroisse luthérienne Saint-Jean à Paris, partagera ensuite sa lecture. Que seraient en effet tous ces textes écrits par des commissions sans leur réception dans chacune de nos églises. Alors nous comptons sur lui pour nous dire les enjeux qu'il perçoit par et pour les protestants, par et pour son Église en particulier. Mais je vais d'abord laisser la parole au frère Michel Malèvre, dominicain, membre du groupe des Dombes, lui aussi, ancien directeur du service national pour l'unité des chrétiens à la Conférence des évêques de France, et actuellement directeur du centre et de la revue Istina, qui vient de publier la traduction française de ce texte important. Cher Michel, pourquoi Istina a-t-il relevé ce défi ? En passant, vous pourrez nous présenter cette revue, son projet initial, son projet actuel, et pourquoi vous avez choisi de publier ce texte avec des articles qui le commentent et même le critiquent. À vous, Michel.
Merci, Anne-Marie, de cette présentation et de me donner la possibilité de présenter ce numéro d'Istina. Le Centre Istina, pour faire très bref, a été fondé en 1927 dans la perspective d'une meilleure connaissance entre l'Église catholique et l'orthodoxie russe. Progressivement, son champ s'est élargi au moment où l'Église catholique entrait dans le mouvement œcuménique et par la suite, après le Concile Vatican II, lorsque le père Bernard Dupuis en a pris la direction en s'intéressant aussi aux relations avec le judaïsme. Depuis que j'ai pris la direction du centre en 2010, j'ai eu le souci que certains connaissent de faire écho aux transformations profondes du paysage religieux et de la complexification, si l'on peut dire, des relations œcuméniques. Il me semblait, dans cette perspective, important de faire écho, comme Sœur Anne-Marie l'a dit, à la fois de tout le cheminement qui s'ouvre à nous vers la commémoration de la réforme en 2017 et d'autre part de mieux faire connaître un document important d'une commission internationale, même si l'on dit parfois que les documents s'accumulent et que leur réception n'est pas à la mesure, si je puis dire, de la production de tous ces textes. Dès que nous avons eu connaissance de la publication de ce texte, nous avons pensé qu'il faudrait qu'il soit traduit, mais nous savons bien qu'avec la transformation de la revue Documentation catholique et les délais que peuvent prendre les traductions au niveau des instances dirigeantes, je pense en particulier au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, il y avait le risque qu'il y ait un trop fort décalage entre ce qui a été, je dirais, le lancement du document au mois de juin et puis une éventuelle publication beaucoup plus tard. Je me suis donc enquis de savoir si il y avait des équipes qui envisageaient de traduire le texte. Et face aux réponses négatives, je me suis dit que Istina pourrait traduire ce texte pendant l'été de façon à ce qu'il puisse sortir au moment de la rentrée, si je puis dire, en septembre-octobre. À ce moment-là, des contacts se sont approfondis sur cette question avec la Fédération protestante de France et il a été décidé de faire une traduction œcuménique qui mettrait en jeu non seulement la revue Istina, qui est catholique, d'origine en tout cas, et la Fédération protestante de France. Et donc la traduction a été lancée, elle a été préparée dans un premier temps par une protestante évangélique, elle a été reprise ensuite par une réformée et une luthérienne, et j'ai finalement fait la révision de la traduction, non seulement du point de vue de la précision de la traduction, sur des expressions sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir qui pouvaient faire difficulté, mais aussi pour les références données, puisque le document a une double publication allemande et anglaise, et dans la traduction que vous avez pu voir sur Internet en anglais, il y a, je dirais, un double système de référence et beaucoup d'ouvrages en anglais, alors que nous avons déjà un certain nombre des textes auxquels le document fait référence qui ont été traduits en français, avec d'ailleurs une difficulté, c'est que ce sont soit des traductions publiées sous forme de livres, soit sous forme de CD-ROM et qui ne sont pas tout à fait identiques. Il fallait donc choisir et j'ai choisi de privilégier les traductions qui ont été faites en commun par dans la collection Documents d'Église par les éditions Bayard, Fleurus Mam et Le Cerf. Alors, voilà comment la traduction a été élaborée. Ensuite, il était évident qu'il pourrait être intéressant non seulement de proposer cette traduction, mais aussi de la sortir de commentaires. J'ai donc demandé à Michel Fédou s'il accepterait de faire cette traduction dans la mesure où il était effectivement membre de la commission qui a rédigé le texte. Et j'ai demandé à Marc Liénard, personnalité très connue, luthérienne, donc en quelque sorte comme vis-à-vis et comme historien, de bien vouloir accepter de faire un commentaire. Je dois dire que je suis admiratif devant la disponibilité de ces deux intervenants, puisqu'ils ont consacré une partie de leur été à rédiger ces commentaires, ce qui est très généreux de leur part. Je souhaitais aussi, dans la mesure où nous pouvions nous réjouir de l'existence de l'Église protestante unie de France, qu'il y ait un point de vue réformé, dans la mesure où il est évident que c'est un texte catholique luthérien, puisqu'au niveau international, il y a un dialogue bilatéral, mais que nous avons en France et que nous avons en Europe, avec la communion d'églises protestantes en Europe, des églises luthériennes qui sont en pleine communion avec des églises réformées, et que l'une des questions qui est posée, notamment à travers le texte, c'est la signature éventuelle de la déclaration commune sur la justification auquel le document fait référence par la communion réformée mondiale et d'autres instances au niveau français, par exemple. Et là, c'était peut-être un peu plus compliqué, jusqu'au moment où j'ai vu que en Allemagne, on faisait beaucoup référence à la prise de position du professeur Ulrich Körtner, qui avait reçu, il y a quelques années, un doctorat honoris causa de l'Institut protestant de théologie. Et ça me semblait intéressant que les lecteurs francophones puissent accéder à ce document. Alors, il est évident qu'en voyant le document, je me suis rendu compte qu'il y aurait un décalage entre un commentaire plutôt bienveillant des deux protagonistes que j'ai mentionnés et d'autre part, le commentaire assez critique du professeur Körtner. Mais je me suis dit qu'après tout, le rôle d'une revue comme Istina était essentiellement de nourrir un débat et j'ai donc décidé de faire traduire ce document avec l'aide de l'association Paris-Wittenberg et donc nous avons traduit ce texte et il a été publié donc avec les deux autres. Alors voilà, nous avons maintenant ce dossier en quelque sorte. Je crois que il nous renvoie à la question à laquelle Anne-Marie avait fait allusion en commençant, c'est-à-dire la possibilité de célébrer d'une certaine façon cet événement qu'a été la réforme en 2017. Quand je dis célébrer, il est évident qu'il est difficile de célébrer une division. Et en même temps, nous voyons bien dans notre société contemporaine, et le professeur Körtner y insiste à plusieurs reprises, que l'événement de la réforme n'a pas été simplement des prises de position différenciées sur un certain nombre de sujets théologiques difficiles, mais a été aussi un événement qui a contribué à façonner la culture européenne et plus largement l'évolution de la culture mondiale. Et donc, en ce sens, je pense qu'il était particulièrement intéressant de publier ce document pour nous aider à réfléchir non seulement sur les enjeux du rapprochement entre nos églises, mais aussi à ce qu'est devenue notre société, ce qu'elle continue à être dans l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui d'annoncer Jésus-Christ dans une société en pleine mutation, où nous voyons que ce ne sont pas seulement les questions doctrinales, mais ce sont aussi des questions éthiques et la manière de se situer dans la société qui font débat entre nos églises.
Merci Michel. Je passe maintenant la parole à Michel Feydeau. Nous le remercions d'avance de nous présenter ce texte, son histoire, ses grandes lignes, des passages clés peut-être, sans oublier peut-être de donner un peu de chair et d'expérience à ce qu'il va nous dire. Merci Michel.
Merci beaucoup Anne-Marie. Merci d'abord d'avoir pris l'initiative de cette soirée. Au mois de septembre déjà, Anne-Marie y pensait et ça a pu se réaliser. Merci beaucoup. La Commission internationale de dialogue luthéro-catholique, dont je suis membre depuis 2009, a connu plusieurs phases depuis sa création, qui remonte à 1967. La composition de cette commission s'est renouvelée, bien sûr, à chaque nouvelle phase. Dans les décennies précédentes, la commission a produit plusieurs documents, dont l'un sur le thème « Église et justification » a été particulièrement important, parce qu'il a servi de base au travail du groupe qui a élaboré la fameuse déclaration commune sur la justification par la foi, solennellement promulguée en 1999, déclaration d'Augsbourg. La même commission luthéro-catholique, je le signale, avait produit en 1983 un texte à l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Martin Luther. Dans sa phase actuelle, la commission comprend une dizaine de catholiques et une dizaine de luthériens. Il y a une majorité d'Européens, mais il y a aussi plusieurs Américains, un Africain et un Asiatique, commission internationale. Le document qui nous réunit ce soir est le fruit d'un travail qui s'est donc étalé sur 4 années. Pourquoi nous a-t-il été demandé de préparer un tel document en vue de la commémoration de 2017 ? Il faut savoir que dans les siècles précédents, les centenaires de l'année 1517 avaient déjà donné lieu à des commémorations. Mais ces commémorations étaient pour les luthériens, en général, l'occasion de réaffirmer unilatéralement le bien fondé de la réforme à l'encontre de l'Église catholique, tandis que de leur côté, les catholiques accusaient les luthériens d'avoir provoqué une division en elle-même injustifiable. Or, pour la première fois, en 2017, la commémoration va intervenir à une époque désormais marquée par plusieurs décennies de dialogue œcuménique. On peut certes attendre à ce que le rappel des origines de la réforme donne aussi lieu, ça et là, à des réaffirmations identitaires du côté protestant et donc aussi à des réactions plus ou moins crispées du côté catholique. Mais c'est justement pour prévenir cela qu'il a été demandé à la Commission internationale de préparer un document, et surtout cela nous a été demandé pour inviter les communautés luthériennes et catholiques à faire de cette année 2017, autant que possible, un jalon sur le chemin de la communion espérée. Il devra s'agir d'une commémoration commune. Évidemment, nous n'avions pas à faire des propositions pratiques sur la manière de vivre cette commémoration. Cela relève des diverses communautés ça et là. Par contre, notre cahier des charges était en quelque sorte d'aider ces communautés à préparer la commémoration de manière aussi juste que possible, en bénéficiant des avancées déjà réalisées dans le cadre du mouvement œcuménique et en invitant à aller de l'avant sur ce chemin. Nous pensions initialement que notre travail ne nous prendrait pas beaucoup de temps. Nous avons un autre travail plus important à accomplir dans les années qui viennent. Nous pensions qu'il s'agirait d'un texte bref, une sorte de manifeste de quelques pages. Mais le travail s'est avéré beaucoup plus long que prévu et il nous a fallu finalement 4 sessions plénières de 8 jours chacune pour mettre au point le document, avec beaucoup de travail entre les sessions aussi, document qui a été avalisé par le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens et par la Fédération luthérienne mondiale. Ainsi qu'Anne-Marie me l'a demandé, je voudrais donner une brève présentation de ce document. Vous pourrez suivre grâce à la feuille que vous avez sous les yeux. Et je terminerai en proposant quelques réflexions plus personnelles. Le chapitre 1 s'intitule « Commémorer la réforme au temps de l'œcuménisme et de la mondialisation ». Ce chapitre attire l'attention sur la nouveauté de la situation historique dans laquelle va prendre place la commémoration de 2017. Nouveauté qui tient au fait que, comme je l'ai dit, cette commémoration va intervenir après plusieurs décennies de dialogue œcuménique, mais nouveauté qui tient aussi à la situation inédite de nos églises à l'âge de la mondialisation, avec notamment une nouvelle répartition des chrétiens entre les pays du Nord et ceux du Sud, et cela dans le contexte aussi de ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. Or, dans cette situation précisément, il est possible d'envisager une commémoration commune des débuts de la réforme, et cela d'abord parce que nous bénéficions de nouvelles perspectives sur Martin Luther et sur la réforme. C'est précisément le titre du chapitre 2, « Nouveau point de vue sur Martin Luther et la réforme ». Et le premier paragraphe de ce chapitre 2 dit avec netteté ce qui est en jeu dans cet acte de mémoire. Je lis, ce qui est advenu dans le passé ne peut pas être changé, mais ce dont on se souvient de ce passé et la façon dont on transmet ce souvenir peuvent, au cours du temps, se modifier. Le souvenir rend le passé présent. Si le passé lui-même ne peut pas être altéré, l'empreinte du passé sur le présent le peut. Dans l'optique de 2017, il ne s'agit pas de raconter une histoire différente, mais de la raconter d'une manière différente. Ce qui rend cela possible, ce sont d'abord les recherches historiques qui ont été faites sur la fin du Moyen-Âge, sur le XVIe siècle, et en particulier sur la théologie de Luther. Ce sont aussi les développements du dialogue œcuménique depuis Vatican II. Certes, reconnaître de tels acquis n'autorise pas à fermer les yeux sur les différences qui demeurent, j'y reviendrai. Mais il y a différence et différence. Ce qui apparaît comme une opposition entre doctrine luthérienne et doctrine catholique peut simplement recouvrir, dans nombre de cas, une différence d'expression, une différence de langage, sans nécessairement impliquer une divergence sur le fond. Il s'agit donc d'opérer une sorte de discernement. Et en fait, les partenaires du dialogue doivent d'abord chercher ce qu'ils ont en commun, tout en sachant identifier ce qui relève de divergences non encore surmontées. Les deux chapitres suivants constituent le cœur du document, sa partie la plus substantielle du point de vue historique et théologique. Le chapitre 3, tout d'abord, propose une esquisse historique de la réforme luthérienne et de la réaction catholique. Commémorer, c'est d'abord raconter. Telling the story, c'est le mot qui passait entre nous dans la commission. Telling the story together, ensemble, raconter. Et je soulignerai pour ma part beaucoup l'importance de ce chapitre 3, importance qui tient bien sûr à ce qui est raconté, mais qui tient aussi au fait même qu'il s'agit d'une lecture commune de l'histoire. Ainsi que le souligne le premier paragraphe de ce chapitre 3, je lis « Aujourd'hui, nous pouvons raconter ensemble l'histoire de la réforme luthérienne. Même si luthériens et catholiques ont des points de vue différents, grâce au dialogue œcuménique, ils peuvent dépasser les herméneutiques traditionnelles, antiprotestantes ou anticatholiques, pour trouver une façon commune de se remémorer les événements passés. » Le document, certes, ne prétend pas donner un récit complet, mais il entend au moins recueillir des éléments essentiels de l'histoire. Je ne peux évidemment pas résumer cette histoire. Ce qui en ressort, en tout cas, c'est sa complexité. D'une part, contrairement à ce qui a été souvent dit dans le cadre des controverses ultérieures, l'intention de Luther n'était pas d'abord de diviser l'Église, mais de la réformer. D'autre part, même si les conflits se sont aggravés jusqu'à produire les divisions que nous savons, le moins qu'on puisse dire est que les torts étaient très partagés du côté protestant et du côté catholique. Mais le récit que nous proposons rend aussi attentif aux efforts qui furent faits dès l'époque pour surmonter le conflit entre luthériens et catholiques, notamment à la faveur des colloques de Worms et de Ratisbon. Je ne peux pas m'empêcher de préciser, mais ce n'est pas écrit dans le document, que le jésuite Pierre Favre avait participé à ces colloques. Le document rappelle en tout cas que le Concile de Trente lui-même, à côté de ses décrets doctrinaux, en partie dirigés contre la réforme protestante, le Concile de Trente promulgua aussi toute une série de décrets disciplinaires, pastoraux, des décrets qui étaient ordonnés à la réforme de l'Église catholique, ce qui attestait malgré tout une certaine intégration des requêtes formulées par les protestants. Après cette lecture commune de l'histoire, la Commission a estimé qu'il était également possible de présenter d'une seule voix la doctrine de Luther, ou tout au moins plusieurs thèmes essentiels de cette doctrine. C'est l'objet du chapitre 4. Nous avons retenu 4 thèmes, plus un cinquième qui n'est pas du même ordre. Les 4 thèmes sont la justification, l'Eucharistie, le ministère, l'Écriture et la tradition. Dans chaque cas, le document essaye d'abord d'exposer la position de Luther, puis il fait brièvement état des préoccupations formulées par les catholiques sur le même sujet, et enfin, il recueille les résultats désormais atteints grâce au dialogue œcuménique sur ces sujets, et éventuellement, il identifie, dans chaque cas, les divergences qui demeurent. Je résume très brièvement les conclusions. Premièrement, pour la justification, nous sommes désormais parvenus à un accord fondamental, la fameuse déclaration d'Augsbourg. Deuxièmement, pour l'Eucharistie, le travail théologique et le dialogue œcuménique ont permis de se convaincre que, notamment grâce à la redécouverte du concept d'anamnèse, de mémorial, nous partagions pour l'essentiel la même foi et que nous reconnaissions notamment, de part et d'autre, ce qu'on appelle en langage catholique la présence réelle du Christ, à condition que celle-ci ne soit pas comprise comme répétition de l'offrande accomplie une fois pour toutes sur la croix. Troisièmement, pour les rapports entre écriture et tradition, nous avons également atteint un accord substantiel qui, sur ce sujet en tout cas, ne justifie plus la division de nos églises. Quatrièmement, il s'agit en fait du troisième thème dans l'ordre du document, la question du ministère ou des ministères, elle, donne lieu à une conclusion nettement plus mitigée. Si des progrès ont été atteints, il reste sur cette question des divergences qui appellent clairement la poursuite du dialogue œcuménique. À ces 4 thèmes spécifiques, il a paru essentiel d'ajouter un développement sur l'Église. Ce thème n'est pas du même ordre que les précédents, je dirais qu'il leur est plutôt sous-jacent. Et en particulier, il est impliqué par la question des ministères. Bien que déjà abordée dans les décennies antérieures, cette question touchant la compréhension même de l'Église reste dans une large mesure le principal chantier du dialogue à venir. Certes, le document note que catholiques et luthériens n'ont jamais cessé de confesser ensemble la foi dans l'Église une sainte catholique apostolique. Il reste que le travail doit se poursuivre sur un certain nombre de questions, comme par exemple la relation entre la visibilité et l'invisibilité de l'Église, ou encore la relation entre l'Église universelle et l'Église locale, ou encore le caractère sacramentel de l'ordination épiscopale. La commémoration de 2017 ne sera donc pas seulement l'occasion de recueillir les acquis du dialogue, mais plus encore devra inciter à franchir de nouveaux pas. Les chapitres 5 et 6, enfin, reviennent précisément sur le sens de cette commémoration. Le chapitre 5, qui s'intitule « Appelés à une commémoration commune », explique que la commémoration de 2017 ne pourra pas être vécue de manière unilatérale. Et il précise ce que devra être cette commémoration. Je lis « Membres d'un seul et même corps, catholiques et luthériens font mémoire ensemble des événements de la Réforme qui ont conduit à la réalité de division qu'ils ont vécue par la suite, malgré leur appartenance au corps unique. Parce qu'ils appartiennent au même corps, catholiques et luthériens se battent face à cette division pour retrouver la pleine catholicité de l'Église. Ce combat a deux faces, la reconnaissance de ce qui est commun et les lie intimement, et la reconnaissance de ce qui divise. Ce qui est commun est source de reconnaissance et de joie, ce qui divise est source de douleur et de peine. » Comme on le voit par cette dernière phrase, la commémoration de 2017 ne pourra pas être simplement une célébration, car ce qui divise ne peut, comme tel, être célébré. Je lis « En 2017, quand les chrétiens luthériens célébreront l'anniversaire des débuts de la Réforme, ils ne célébreront donc pas la division de l'Église d'Occident. Aucune personne théologiquement responsable ne peut célébrer la division entre chrétiens. » On peut noter au passage que, même si le mot « anniversaire » est ici employé, le document en son ensemble utilise beaucoup moins le mot « anniversaire » que le mot « commémoration ». De fait, un anniversaire, pas toujours, mais souvent, évoque la célébration d'un événement joyeux, tandis que le terme « commémoration » est plus neutre. Il correspond davantage à la situation qui est ici en cause. Il s'agit à la fois de se réjouir des biens reçus et de regretter ce qui, dans notre histoire, porte la marque de l'infidélité à l'Évangile. Le document se conclut par un bref chapitre intitulé « 5 impératifs œcuméniques ». Ce chapitre résume d'abord les dispositions qui habitent désormais catholiques et luthériens. Ils appartiennent à l'unique corps du Christ. Ils reconnaissent que les conflits du XVIe siècle sont derrière eux et que les raisons de se condamner mutuellement n'ont plus lieu d'être. La commémoration de 2017 est dès lors l'occasion de formuler 5 impératifs. Catholiques et luthériens devraient toujours se placer dans la perspective de l'unité et non du point de vue de la division, afin de renforcer ce qui est commun, même si les différences sont plus faciles à voir et à ressentir. Luthériens et catholiques doivent continuellement se laisser transformer par la rencontre de l'autre et par un témoignage de foi des uns à l'égard des autres. Catholiques et luthériens devraient s'engager à nouveau à chercher l'unité visible, à en étudier ensemble les étapes concrètes et à tendre sans se lasser vers ce but. Luthériens et catholiques devraient ensemble redécouvrir la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ pour notre temps. Catholiques et luthériens devraient ensemble témoigner de la grâce de Dieu en proclamant l'Évangile et en se mettant au service du monde. Ainsi se présente le document. Si j'avais à dire son originalité par rapport aux documents antérieurs de la Commission, je la résumerais en 3 points. D'une part, cette originalité me semble tenir à la lecture commune des débuts de la Réforme. D'autre part, elle tient au fait qu'il a été possible de reprendre des thèmes théologiques fondamentaux de Martin Luther et de les évaluer à la lumière des dialogues œcuméniques récents. Enfin, et peut-être surtout, elle tient au fait que le document entend disposer à la commémoration commune de 2017 et qu'il appelle à ce que cette commémoration soit comme telle une étape marquante dans le chemin vers l'unité. Comme je l'annonçais, je voudrais, pour finir, proposer quelques réflexions plus personnelles. Elles seront au nombre de 3. Je voudrais en premier lieu me prononcer un petit peu au sujet des quelques réactions qui ont été formulées dans le numéro Destina, d'abord par Marc Yenhardt, puis par le professeur Ulrich Körtner. Marc Yenhardt, tout d'abord, professeur émérite de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, avec toute la compétence qui est la sienne, apporte, me semble-t-il, un certain nombre de précisions de grand intérêt sur les origines de la Réforme et sur la théologie de Luther. Je ne peux vraiment qu'en recommander la lecture. Juste un point, si je puis me permettre. Marc Lienhardt qualifie l'exposé de la commission sur la théologie de Luther, le qualifie d'exposé sommaire. Il a raison, au sens où il serait possible d'écrire de manière beaucoup plus développée sur les thèmes théologiques développés par Luther. Mais il me semble important de rappeler que ce document du conflit à la communion ne prétend absolument pas être un traité sur la théologie de Luther. Il entend simplement rappeler quelques thèmes sur lesquels le dialogue œcuménique permet désormais de porter un nouvel éclairage. Ma remarque n'enlève rien à la pertinence et à l'intérêt extrême des compléments et des précisions apportés par Marc Lienhardt. L'autre article, celui de Ulrich Körtner, théologien réformé, professeur de théologie à l'université de Vienne, en Autriche, est un article de fait critique, très critique. Il est normal qu'un document œcuménique appelle la discussion. En l'occurrence, comme membre de la commission, je suis bien obligé de défendre un peu tout de même le document. C'est pourquoi je voudrais réagir par rapport à certaines de ces critiques, parce que ça engage des questions de fond. Première objection d'Ulrich Körtner, le document luthéro-catholique veut présenter d'une seule voix l'histoire de la réforme et la théologie de Luther. Or, écrit-il, je cite, « cela se fait au prix d'une lecture assouplie de la théologie de la réforme et d'une atténuation de tous les conflits, réduits à de malheureuses incompréhensions mutuelles et à des manquements humains. » Il y a quelque chose à entendre à travers cette réaction. Je pense en même temps que le jugement est excessif, car justement, le document ne dit pas que tout se réduisait à des malentendus. Simplement, le document prend acte de ce qui a été déjà acquis, au moins entre catholiques et luthériens, et notamment à propos de la doctrine sur la justification. Deuxième objection, le document, dit Ulrich Körtner, ne prend en compte que le luthéranisme. Je cite, « les autres traditions et églises de la réforme sont occultées, et en premier lieu, les réformées. » Il me semble qu'on peut répondre. On peut répondre, il est normal que le document ne parle presque que du luthéranisme, puisque c'est un document qui est le fruit d'un dialogue bilatéral, comme cela a été rappelé tout à l'heure, dialogue bilatéral entre catholiques et luthériens. Je crois vraiment qu'il nous était difficile et même impossible de parler aussi au nom des réformés, des baptistes, d'autres chrétiens de confession protestante. Et de toute façon, on ne peut pas méconnaître que Martin Luther, malgré tout, est au point de départ de la réforme. Et je crois que de ce point de vue, même si ce document est limité nécessairement du fait que c'est le document d'un groupe, une commission de dialogue bilatéral, c'est un document qui a, je crois, une portée plus large pour les églises de la réforme. Et il faut notamment souhaiter que les impératifs œcuméniques du chapitre 6 soient entendus bien au-delà des milieux catholiques et des églises luthériennes. La troisième objection sur laquelle je voudrais revenir brièvement est sous-jacente au titre même de l'article de Ulrich Körtner. L'article s'intitule « Une raison pour fêter et non se lamenter ». Ulrich Körtner écrit que « les raisons de se réjouir de l'avènement de la réforme sont très peu exprimées dans le document et que ce qui prédomine, c'est la complainte sur la division de la chrétienté occidentale ». Le jugement me semble encore un peu excessif, car le document précisément entend dire que la commémoration de 2017 devra être à la fois marquée par la reconnaissance pour ce que Luther a apporté et par le regret de ce qui, du côté luthérien comme du côté catholique, a été de l'ordre d'un contre-témoignage par rapport à l'Évangile. Ulrich Körtner écrit « la commémoration de 2017 devra être une raison pour fêter et non se lamenter ». Alors, il ne s'agit pas d'opposer à cela que la commémoration doit être une raison pour se lamenter et non pour fêter. Mais je crois que, conformément au document, il s'agit de reconnaître que cette commémoration devrait être à la fois, précisément, sous le signe de l'action de grâce et sur le signe de la repentance. Dernier point enfin, toujours dans cette première série de réflexions qui est la plus longue, Ulrich Körtner écrit que, c'est vers la fin de son article, il écrit que la partie catholique, d'après ce document, perçoit l'Église romaine comme étant devenue une Église confessante particulière, ce qui contredit sa propre conception dogmatique de l'Église. Alors il me semble que, non seulement il me semble, mais je suis sûr que, enfin, comme membre catholique de la Commission, je ne peux pas faire mien, évidemment, cette réflexion, parce que cette réflexion laisse entendre que les membres catholiques de la Commission auraient en quelque sorte trop concédé à l'ecclésiologie luthérienne. Or, le document rappelle bien plutôt qu'il y a encore, entre luthériens et catholiques, des compréhensions différentes de l'Église, et qu'il faut continuer à avancer sur ce sujet. Les discussions devront se poursuivre sur cette question. Simplement, la conscience des divergences ne doit pas empêcher de s'ouvrir à la vérité dont les autres sont porteurs. Comme l'écrivait Yves Congard dans son livre de 1983 sur Martin Luther, une vérité ne peut être contraire à une autre vérité. Il faut donc reconnaître toute vérité, d'où et de qui elle vienne. Au demeurant, ajoutait-il, même si nous, catholiques, nous nous rapprochons du chrétien luthérien, et même si les luthériens se rapprochent du catholicisme, nous ne devons pas oublier que c'est Jésus-Christ qui doit être vainqueur, lui, son évangile et ses apôtres. De toute manière, et j'en viens ainsi à ma deuxième réflexion, quoi qu'il en soit, des discussions légitimes, intéressantes, à propos du document, à la mesure des réactions qu'il suscite, il ne faudrait pas que ces discussions passent à côté de ce qui a été fondamental dans la genèse même de ce texte, à savoir une belle expérience de dialogue œcuménique. Cette expérience a été, bien entendu, celle des sessions, des séances de travail que nous avons eues pendant une huitaine de jours chaque année, pendant 4 ans. Sessions intensives, toutes en langue anglaise. J'avoue avoir été quand même impressionné au début, parce que même si on connaît un peu l'anglais, ce n'est pas très facile de prendre la parole sur des sujets difficiles, parfois très pointus, quand il y a dans la même commission des Américains, des États-Unis, pour qui l'anglais ne pose aucun problème, langue maternelle. Mais nos sessions, c'est ça surtout que je voudrais dire, nos sessions de travail ont aussi inclus des temps de prière commune. Et de plus, le fait même de vivre ensemble dans le même lieu pendant 8 jours, de prendre les repas ensemble, de pouvoir échanger gratuitement en dehors des séances de travail, tout cela, je crois, a beaucoup contribué à nous faire avancer malgré ou à travers les difficultés mêmes. Je peux attester qu'il y a eu, çà et là, des discussions exigeantes, parfois même des moments difficiles. On ne savait pas comment progresser, on voyait plus clair. Mais il y a eu aussi des moments de conversion qui ont rendu possible de très belles avancées. Je donne simplement un exemple. Il n'allait pas de soi que nous parviendrions à raconter d'une seule voix les origines de la réforme. Et à un moment, certains membres de la commission étaient tentés de revenir en arrière. On aurait exposé d'abord le regard des luthériens sur Luther, puis le regard des catholiques sur Luther. Mais finalement, et c'est un vrai travail spirituel qui s'est opéré, il s'est imposé à nous tous, que nous pouvions et devions raconter ensemble les débuts de la réforme. Belle expérience œcuménique. Et je voudrais aussi dire quand même la joie qui a été donnée aux membres de la commission lorsque, au bout de la 4e session, autour de 22h, le dernier jour, nous avons pu adopter à l'unanimité ce document dans sa forme finale. Et joie plus grande encore lorsque nous avons appris quelques mois plus tard que ce document était reçu par les autorités qui nous avaient mandatés. Le document du conflit à la communion ne peut pas être interprété indépendamment de l'expérience qui a présidé à son élaboration. Et il invite lui-même à une expérience ecclésiale, car même s'il inclut des développements historiques et théologiques assez substantiels, je crois, dans les chapitres centraux, ce document constitue surtout un appel à la conversion de nos églises dans l'horizon de l'année 2017 pour que la commémoration de la réforme soit vécue d'une manière juste, c'est-à-dire dans un climat d'abord marqué par la gratitude pour les dons reçus, mais aussi par la confession des fautes contre l'unité et surtout par la détermination à aller de l'avant dans la recherche de la pleine communion. Ma troisième et dernière réflexion sera très brève. Il se trouve que la session de la commission l'été dernier s'est déroulée au Japon, c'est-à-dire dans un pays où il y a moins d'1% de chrétiens, la très grande majorité des croyants étant en l'occurrence bouddhistes ou shintoïstes. Ken Yamamoto a écrit sur ce sujet, les chrétiens au Japon, un très bel article dans le tout dernier numéro de la revue Unité des chrétiens. J'ai éprouvé, durant cette session à Kyoto, au mois d'août dernier, j'ai éprouvé, comme jamais auparavant, à quel point la division des églises catholiques et protestantes était dramatique. Comment être crédible auprès des autres croyants au sein d'un monde si majoritairement non chrétien? Depuis lors, en décembre, dans son exhortation apostolique « La joie de l'Évangile », le pape François a lui-même écrit ces lignes, je cite, « Étant donné la gravité du contre-témoignage de la division entre chrétiens, particulièrement en Asie et en Afrique, la recherche de chemins d'unité devient urgente. » C'est bien là, me semble-t-il, ce qui contribue à éclairer le sens du document du Conflit à la Communion et plus largement le sens de tout travail œcuménique aujourd'hui. Une attention au contexte large du monde actuel, non seulement d'ailleurs les autres religions, mais aussi bien l'incroyance ou l'agnosticisme, une telle attention rend d'autant plus urgente la quête de l'unité. Il n'y va pas seulement de la communion espérée entre l'Église catholique et les églises issues de la Réforme, il y va de la crédibilité même de l'Évangile dans le monde pluraliste de notre temps.
Merci Michel. Merci Michel. Les applaudissements disent combien nous avons besoin d'être réveillés dans ce constat et de nous laisser réappeler. On est tellement finalement pris par l'habitude des textes qui s'amoncellent, comme tu l'as dit au début, qu'on oublie les défis importants qui nous est posé et la nouveauté extraordinaire du texte qui vient de sortir, quoi qu'il en soit, des limites que tu as aussi su souligner. Voilà, donc que nous gardions ça au creux de nous, comment être crédibles dans un monde majoritairement non chrétien. Merci. Et donc, sans tarder, je vais passer la parole à Frédéric Chavel, donc, que j'ai déjà présenté. Et donc, il va nous livrer sa lecture. Il est aussi un peu dans notre position. Il reçoit un texte qu'il n'a pas écrit, auquel il n'a pas participé. C'est une toute autre posture dont nous avons besoin ce soir pour nous aider à rentrer dans ce projet. Merci Frédéric.
Merci beaucoup. Je voulais commencer par remercier vraiment Anne-Marie Petitjean, Michel Fédoux et Michel Malèvre, ainsi que peut-être tout le Centre Sèvres pour l'occasion qu'ils ont provoquée et pour m'avoir invité à partager ce moment avec eux. Je suis vraiment très honoré dans une grande joie de pouvoir être là avec vous. Et puis, comme vient de dire Anne-Marie Petitjean, je suis, moi, plutôt déjà dans la réception de ce texte. Quand j'entends Michel Fédoux et Michel Malèvre avec l'expérience écuménique qu'ils ont, pour moi, d'être assis dans la salle, ce serait peut-être beaucoup plus la position naturelle pour simplement les écouter. Mais si j'ai accepté quand même d'être à côté d'eux à la tribune, ce qui est presque un peu incongru, c'est parce que je crois que nous devons absolument être ensemble, protestants et catholiques, pour présenter et pour vivre la réception de ce texte. Alors, ce que je voulais vous dire ce soir, d'abord, je dois absolument vous dire, ce matin, ma montre est tombée sur le carreau de ma salle de bain et elle s'est cassée. Ce qui fait que nous allons avoir un petit problème, puisque j'ai trop d'envie de vous dire des choses et je vais avoir du mal sans ma montre à contenir ce besoin. Merci. Heureusement. Mais j'ai tout de même autre chose à vous dire que simplement à propos de ma montre. Je voulais commencer par un hommage au couple mixte, qui en fait, mais au-delà de cet hommage au couple mixte, évoquait finalement la situation dans laquelle ce texte est reçu, comme cela a déjà été évoqué, comme ça est dit dans le texte lui-même, à savoir un contexte de mondialisation, un contexte de changement de repères traditionnels, un contexte aussi où la religion chrétienne est de plus en plus confrontée à ceux qui ne sont pas chrétiens. Et dans ce contexte-là, tous ceux qui vivent des croisements de traditions, je crois, ont une expérience particulière à livrer, donc un hommage au couple mixte. Il se trouve aussi que je viens moi-même, génétiquement, d'un couple mixte, mais je crois que cette situation des mariages, alors quand on prononce le mot mariage cette année, c'est un peu compliqué, mais je crois que les mariages, c'est un moment très important, c'est-à-dire que c'est un moment où l'on ouvre les frontières d'une famille et où l'on forme une famille là où il y avait avant deux familles séparées. Et je crois que c'est essentiellement ce dont ont besoin les églises chrétiennes qui ont vécu en famille séparée et qui ont besoin de quelque chose comme un mariage. Et donc ceux qui sont issus des couples mixtes ont peut-être quelque chose à vivre, car ils reçoivent une vérité chrétienne, une foi chrétienne qui leur vient de manière aussi égale, disons, de deux traditions différentes, même si ça ne veut pas dire qu'il faut le vivre dans la confusion, mais ils sont obligés de reconnaître la vérité chrétienne qui est dans chacune de ces traditions. Cela, c'est vraiment une situation caractéristique de notre XXIe siècle, puisque nous sommes dans un dépassement des clivages traditionnels. Vous savez que depuis 1555, en tout cas depuis la paix d'Augsbourg, et le texte du conflit à la communion le rappelle, une habitude de paix armée écuménique s'était installée avec le principe cuius regio et ius rei ligio. On invitait chaque région, selon son gouvernement, à adopter une religion majoritaire, les autres étant au mieux tolérées. Mais cette réponse n'est absolument plus tenable dans le monde où nous vivons. Nous avons besoin que les chrétiens soient ensemble et il y a un dépassement des communautarismes qui se fait de toute manière. Alors, je vais vous dire deux choses ce soir. D'abord, je vais parler essentiellement de la réception du texte. Mais d'abord, dans un premier temps, en vous disant l'enjeu pour les luthériens, car même si je suis d'une église unie, ce soir, j'interviens particulièrement à travers la coloration luthérienne de cette église. Ensuite, je parlerai de réception du texte sous trois aspects. D'abord, la situation de réception complexe. Ensuite, l'enjeu de la réception, car selon moi, si la situation de réception est complexe, l'enjeu de la réception peut quand même être clair. Et tout à la fin, je dirais deux mots sur le temps de la réception, un temps de réception qui est toujours imprévisible. Donc d'abord, l'enjeu de l'année 2017 vu côté luthérien. Je dirais que l'enjeu, à mon avis, est quelque chose que l'on pourrait formuler comme la nécessité de libérer Luther des luthériens. Car pendant des siècles, l'héritage luthérien s'est construit de manière très centrée, avec une revendication très possessive autour de la figure spirituelle de Martin Luther, de son héritage spirituel, même s'il y a évidemment une évidente continuité entre Martin Luther et les églises luthériennes qui en sont issues. Ce qui est absolument nouveau, c'est que maintenant, les luthériens, au niveau de la Fédération luthérienne mondiale et dans chaque église locale, vivent cet héritage de Luther comme quelque chose qui doit être partagé publiquement et qui n'appartient pas aux seuls luthériens. Je voudrais ainsi vous raconter, il y a quelques mois, j'ai eu la chance d'être envoyé par notre Église unie pour participer à l'Assemblée du Conseil œcuménique des Églises à Busan, où j'étais d'ailleurs à côté de Michel Malèvre, envoyé par sa propre Église. Lors de cette assemblée du Conseil œcuménique des Églises en Corée, il y a ce que l'on appelle une rencontre confessionnelle luthérienne avec le président de la Fédération luthérienne mondiale, Moon Hee-byunan, et le secrétaire général, Martin Junge. Déjà, leurs noms vous avertissent, car Martin Junge, même s'il a un nom allemand, est un Chilien, Et Munib Younan est évêque en Terre Sainte, donc il est palestinien. Ils nous ont rappelé que d'autres que les luthériens célébreront 2017, ou célébreront la commémoration de 1517. Ce qui fait qu'ils ont choisi de ne pas centrer cet événement de la commémoration de 1517 sur la Fédération luthérienne mondiale ou sur les luthériens, mais bien d'y jouer un rôle de contribution à un événement qui pourra être vécu par bien d'autres églises. Et c'est d'ailleurs pour cela que 2017, du côté de la Fédération luthérienne mondiale, ne sera pas vécu à Wittenberg, ce serait une manière de revenir en arrière de manière possessive sur son passé, mais ce sera célébré à Windhoek, en Namibie, manière de dire que cet héritage luthérien doit aller de l'avant et être proposé au monde qui attend un dynamisme évangélique. Il y aurait une manière d'être luthérien dans le mode Paris-Wittenberg, ce serait luthérien en aller en arrière, mais moi, personnellement, j'ai envie d'être luthérien dans le mode Paris-Windhoek, donc en allant en avant. C'est un geste, il me semble, de générosité écuménique. Alors, vous me pardonnerez qu'un luthérien attribue aux luthériens les lauriers de la générosité, mais tout de même, il me semble que c'est bien cela, de dire que notre tradition, nous avons mieux à faire que de la garder pour nous-mêmes et nous devons la laisser être publique dans le christianisme. Derrière cela, il y a aussi un vécu plus difficile des églises luthériennes. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui, dans l'histoire du luthéranisme, a conduit à ce changement d'appréciation entre les commémorations précédentes et celles de 2017, mais ce qui me semble vraiment décisif, c'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ou pendant le nazisme plus largement, à savoir que les églises luthériennes se sont trouvées confrontées au fait que dans un pays où la tradition luthérienne était marquante, il y a eu un christianisme qui n'a pas su réagir, comme il le devrait. Et il y a eu notamment beaucoup de personnes issues du christianisme luthérien qui ont succombé à l'idée de former l'église des Deutsche Christen, des chrétiens allemands. Et écuméniquement, nous avons été interpellés par les autres églises qui nous ont demandé s'il n'y avait pas des liens à faire entre les fondements de la théologie luthérienne et ce qui s'est passé à cette période-là. Et de bien des manières, il y a des arguments pour dire que peut-être il y a des choses dans le luthéranisme qui serait dangereux si elles étaient abandonnées à elles-mêmes. Bon, en même temps, il y a bien sûr eu aussi, venant des églises luthériennes, des figures éminentes comme celle de Bonhoeffer, qui montrent qu'il n'y a évidemment pas un lien de fatalité absolue entre l'intuition luthérienne et ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais tout de même, sortant de la Seconde Guerre mondiale, et cela a été une des impulsions décisives en 1947-1948 pour la fondation du Conseil œcuménique des Églises, les Églises luthériennes ont considéré qu'elles ne pouvaient plus vivre toutes seules et qu'il fallait absolument qu'elles se confrontent à une diversité œcuménique pour échapper aux tentations que peut avoir chaque Église lorsqu'elle se centre sur elle-même. Donc, cela vous explique que cet enjeu, que j'appelle peut-être de manière un peu forte, en forçant sur la formulation par effet de conférence, mais en finir avec les luthériens. Je dirais que 2017, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les luthériens, enfin, ne soient plus luthériens, pour être mieux luthériens, bien sûr, à savoir que les luthériens ne soient pas ce que Luther, à son époque, avait déjà tout de suite discerné comme un écueil, ne soient pas des personnes qui s'identifient à Luther, alors qu'ils devraient s'identifier essentiellement au Christ, mais que ce soit certes des personnes qui suivent la démarche authentique de Luther, à savoir ne pas suivre Luther, mais suivre Jésus-Christ. Donc, je crois que 2017 est une vraie occasion pour les luthériens à échapper à leur luthéranisme, mais pour mieux le vivre, bien sûr, et c'est, je crois, ce que nous faisons, les luthériens français, dans le contexte de l'Église protestante unie de France, où enfin, nous vivons dans une fidélité aux intuitions luthériennes, mais sans que cela soit la marque de notre confession ecclésiale. Je pourrais dire un peu plus ce qui ressort de la théologie luthérienne et qui aboutit à cela. Je crois qu'un élément décisif est dans la spiritualité et dans la théologie de Luther, le fait que Luther a toujours pensé dans le paradoxe et à travers des épreuves, plutôt qu'avec une pensée univoque et linéaire. C'est ça, par exemple, sa formule bien célèbre, disant que l'homme est simul justus et peccator, l'homme est à la fois devant Dieu et dans le regard de Dieu, quelqu'un de juste, de justifié par Dieu, et en même temps un pécheur devant Dieu. Cette pensée qui intègre le paradoxe est à la source de la démarche spirituelle et théologique de Luther, mais à mon avis, il y a un lien à tracer entre cela et ce qui s'accomplit dans le fait qu'aujourd'hui, les luthériens cherchent une diversité écuménique. Car une pensée spirituelle ou une spiritualité ou une pensée théologique qui ne laisse pas leur mode d'être confrontés au paradoxe sont soumis à une tentation terrible, tandis que pour suivre véritablement Jésus, elles doivent, dans leur manière de vivre en Église, laisser ouverte la confrontation, la discussion. C'est ce que nous faisons avec cet amour d'une diversité écuménique. Je crois qu'il y a sur ce point une grande convergence écuménique possible et qui apparaît en partie dans le texte du conflit à la communion. Déjà, j'avais beaucoup apprécié à l'époque, après 1999, des réactions d'Hervé Legrand, qui se retrouve très facilement dans la Nouvelle Revue Théologique, qui expliquait comment, du côté catholique aussi, il y a eu dans les derniers siècles, et peut-être particulièrement dans le dernier siècle, un déplacement théologique depuis une vision qui serait plutôt univoque et linéaire, vers une vision qui honore la diversité, qui honore la pluralité et qui intègre dans chaque Église des temps d'épreuve et de questionnement. Donc non pas une Église monolithique, mais une Église avec une spiritualité et une théologie qui font appel à un extérieur et à un contraste. Je voudrais maintenant venir vers la question de la réception du document. Tout d'abord, je disais que la situation de réception du document est assez contrastée. Elle est, à mon avis, contrastée de deux manières essentiellement. D'abord, il me semble qu'il y a une dissymétrie entre la position de l'Église catholique et la position de l'Église luthérienne, ou plus précisément une dissymétrie entre ce document spontanément pourrait signifier à l'intérieur de l'Église catholique ou à l'intérieur de l'Église luthérienne. Il est clair que dans les communautés luthériennes ou pour la Fédération luthérienne mondiale, cette commémoration de 2017 s'inscrit dans une tradition, puisqu'il y a eu des commémorations dès 1617, 1717, 1817, 1917. Il y a aussi un dimanche de la Réformation qui est identifié, qui est fêté chaque année, le dernier dimanche d'octobre. Et donc, ce document, d'une certaine manière, a déjà son contexte d'attente du côté luthérien et d'ailleurs du côté de bien d'autres églises protestantes également. Du côté de l'Église catholique, il est évident que la situation ne se présente pas de la même manière et on peut poser la question ouverte dans les paroisses, y aura-t-il une fête de la Réformation dans les paroisses catholiques romaines en 2017 ? La réponse est évidemment loin d'être aussi évidente que pour les paroisses luthériennes ou réformées. Du coup, je voudrais revenir sur l'article d'Ulrich Körtner que vous découvrirez dans la revue Istina. J'avais moi-même le sentiment que cet article était très excessif. Et donc, évidemment, j'ai été conforté en voyant que ma lecture était confirmée par un plus expert que moi. Tout de même, malgré les excès, à mon avis assez évidents, de cet article, il y a des éléments de question qui peuvent être pertinents, et notamment la question, est-ce que finalement 1517, pour nous en 2017, cela représente plutôt un problème que l'on va résoudre, ou est-ce que cela représente plutôt un trésor que l'on va tous partager? Et je crois que cette question est tout de même une bonne question. Pour le dire Un peu autrement, toujours à propos de ce déséquilibre entre réception catholique et réception protestante, il y a, vers la fin du document, dans les derniers paragraphes, un léger déséquilibre entre des appréciations luthériennes et catholiques lorsqu'il est question de la joie que peut représenter la joie partagée de l'Évangile que les luthériens voient dans la Réforme et également les raisons de regretter et d'exprimer sa peine. Ce sont les paragraphes 225 à 230 du document. Dans ces paragraphes, alors que l'ensemble de tout le reste du texte est beaucoup plus balancé, dans ce paragraphe, tout à coup, les phrases disent de manière très explicite ce qu'en pensent les luthériens. Les luthériens ont le corps rempli de reconnaissance pour, les luthériens remercient Dieu, ils veulent partager avec tous les autres. Un peu plus tard sur les regrets, les luthériens se souviennent aussi des jugements haineux et dégradants prononcés par Martin Luther. Dans ces paragraphes finaux, on parle tout à coup beaucoup des luthériens et beaucoup moins des catholiques. Et je comprends du coup le questionnement d'Ulrich Körtner, même s'il me semble que je ne l'aurais certainement pas exprimé avec la virulence et la critique assez négative qui se ressent dans son texte. Il est vrai qu'à ce moment-là, on dit que les luthériens ont manifestement envie de partager un trésor et de se réjouir. On n'écrit pas les luthériens et les catholiques dans cette phrase ont le cœur rempli de reconnaissance pour ce que Luther, etc. Donc je crois qu'il reste, il faut le dire, il reste un léger hiatus entre les deux appréciations. Cela renvoie à ce que Michel Fédou nous disait sur la façon dont le texte a avancé à l'intérieur du groupe de travail. Cela dit, à la grande différence d'Ulrich Körtner, je ne serai pas du tout négatif sur le texte, car je crois que, comme cela a été mieux dit à l'instant par Michel Fédou, le texte est un texte qui respecte ses propres limites, à qui on ne pouvait pas demander de faire autre chose qu'un travail de proposition aux églises, et si les églises, sur cette base-là, veulent aller plus loin, c'est à elles de le dire et non pas à un groupe de travail. Dissymétrie donc qui reste luthéro-catholique, en tout cas dans la situation de départ de réception, même si nous pouvons peut-être aller au-delà de cette situation de départ. Dissymétrie également luthéro-réformé, ou plus largement entre luthériens et d'autres traditions protestantes. Je reviens là vers la situation particulière que nous vivons en France, mais aussi dans bien d'autres églises unies en Europe, aux États-Unis, au Proche-Orient ou dans d'autres régions du monde, des églises unies luthéro-réformées, pour lesquelles c'est une nouveauté pour les réformés de recevoir les acquis de la tradition luthérienne comme leur appartement pleinement. Je disais que pendant des siècles, les luthériens avaient d'une certaine manière accaparé leur héritage luthérien. Et donc, quand quelque chose venait de la Fédération luthérienne mondiale, c'était en principe la tâche des luthériens d'assumer cela, d'y répondre, de faire des remarques aux réformés, alors même que dans l'Église réformée, en France et à bien d'autres endroits, beaucoup de pasteurs, beaucoup de fidèles, beaucoup de théologiens se reconnaissaient de manière très forte dans l'héritage de Luther ou d'autres éléments de spiritualité et de théologie luthérienne. Ce qui est nouveau, c'est que l'Église unie, l'Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée dans son nom officiel et complet, l'Église unie, qui a commencé d'exister en France en 2013, va pouvoir pour la première fois vivre aussi bien chez ceux qui s'identifient comme luthériens que chez ceux qui s'identifient comme réformés, un texte de la Fédération luthérienne mondiale qui doit être le leur. Et très concrètement, il y a actuellement le Conseil national de notre Église qui a une commission théologique qui est là pour lui faire des suggestions, lui proposer des avis, qui a demandé à sa commission théologique d'étudier ce texte pour faire des propositions sur la manière dont ce texte de la Fédération luthérienne peut être reçue de manière luthéro-réformée. Donc vous entendez que l'enjeu de la réception est riche, la situation de réception est complexe, à la fois du côté luthéro-catholique, mais en interne du côté protestant, luthéro-réformé, et je dois aussi ouvrir tout l'enjeu de la réception du côté des évangéliques, qui eux aussi vont fêter 2017, mais là, je ne peux pas aller plus loin, sinon c'est la montre qui va se rappeler à nous, et puis je veux quand même vous dire la fin de mon texte. Je disais que même si la situation de réception est complexe, l'enjeu de la réception est cependant clair, à mon avis. À mon avis, il s'agit de passer, pour le dire en un mot, de la discussion savante théologique à la vie en Église. Il s'agit d'aller d'un consensus différencié vers la diversité réconciliée. Alors, je fais cette distinction entre les concepts de consensus différencié et d'unité dans la diversité réconciliée, même s'il y a un lien entre les deux, mais si je les distingue maintenant, c'est parce qu'à mon avis, le concept écuménique de consensus différencié renvoie plutôt l'image d'un concept technique. Le mot consensus lui-même est un mot qui relève du vocabulaire du travail sur texte en commun, et différencier, l'art de la différenciation est plutôt un art académique. Tandis que lorsque l'on entend diversité réconciliée, unité dans la diversité réconciliée, qui est un autre slogan écuménique de notre époque, la réconciliation, ce n'est pas un thème académique, c'est un thème spirituel. La réconciliation, c'est quelque chose qui se réalise dans la communion, lorsque l'on dit que la différence de l'autre est une grâce qui m'est donnée et dont j'ai besoin. Le consensus différencié, si l'on reste simplement au niveau sobre, nécessaire du travail théologique, se contente de dire, comme c'est le cas dans ce texte, l'identification de la différence fait partie du consensus. Donc nous arrivons à raconter ensemble notre histoire, en intégrant et en disant ensemble nos différences. Mais c'est une chose de le dire ensemble, de l'identifier ensemble sur un ton académique, c'est autre chose de le fêter ensemble, de communier ensemble autour de grâces de Dieu qui nous sont faites. D'ailleurs, le fait que le texte du conflit à la communion reste au niveau académique et reste, n'outrepasse pas ses limites, ne fait pas du bris et laisse les églises vivre comme elles le devront ou comme elles le pourront, ce qui est proposé, cela se voit dans un fait très précis, c'est que le texte du conflit à la communion cite abondamment l'histoire, les conciles, Luther, les différentes traditions, les écrits confessionnels, les dialogues bilatéraux. Tout cela est cité, pratiquement pas les Écritures, sauf à quelques passages, surtout vers la fin. Mais tout de même, on voit bien que le texte, pour l'instant, est, disons, dans le consensus différencié, plutôt sur un ton académique, mais qu'il reste à vivre les mêmes choses dans une prière, dans une louange, donc en Église. C'est donc la question, pour moi, fêter la réforme. Je citerai une phrase d'André Birmelet, mais qui n'est pas originale, mais André Birmelet ayant beaucoup contribué à l'élaboration à cette élaboration écuménique, je l'honore en citant sa phrase. Il dit toujours que l'esprit écuménique dans lequel vivent nos églises unies et dans lequel nous voudrions aussi partager avec les catholiques romains peut être résumé de la manière suivante. Ta tradition n'est pas la mienne. Mais je reconnais dans ta tradition une expression pleine et entière, de l'unique Église de Jésus-Christ. Et pas simplement un résidu ou une expression défaillante ou défectueuse. Une expression pleine et entière, je reconnais dans ta tradition une expression pleine et entière de l'unique Église de Jésus-Christ. Alors, l'enjeu, c'est donc bien sûr que, en fait, Luther, peut-être pas simplement dans les paroisses luthériennes, mais peut-être que dans les paroisses catholiques, on fête Luther. Alors, est-ce que ce sera pour 2017 ? Ou est-ce que le chemin à faire est un peu plus long ? Je ne sais pas. C'est à vous de dire, ce n'est pas à nous de vous le dire. De la même manière, parce qu'il faut essayer de faire un effort de réciprocité, que dans les paroisses protestantes, d'ici quelques années, d'ici une trentaine d'années, on fête aussi le Concile de Trente. Est-ce que les protestants sont prêts à fêter le Concile de Trente ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je crois que c'est cela. C'est vraiment cela, l'enjeu de la réception du texte. Pas simplement savoir que les académiciens se sont mis d'accord sur les termes, mais vivre en Église un rapprochement. Pas pour tout mélanger, mais pour élever notre exigence, car je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, les luthériens, à travers l'expérience notamment de la Seconde Guerre mondiale, ont acquis la conviction que l'exigence de suivre le Christ nécessitait une confrontation écuménique. J'en viens maintenant à la question du temps, toujours imprévisible, de la réception. Et je vais vous donner une anecdote à propos de la Concorde de Leuenberg. La Concorde de Leuenberg est ce texte, qui a été, ou plus exactement Concorde entre Églises issues de la Réforme en Europe, est un texte de convergence théologique et de déclaration de communion ecclésiale qui a été signé en 1973 entre des églises luthériennes et des églises réformées sur notre continent. Cette concorde de Leuenberg est donc un texte de 1973 qui a peut-être eu raison avant l'heure. Car pendant des années, nos églises luthériennes et réformées, chacune de leur côté, se sont demandé quelles conséquences cela pouvait avoir, ce texte, sur leur vie d'église. Et il y a à peu près 8 ans, alors je n'ai malheureusement pas coché la date dans mon agenda, donc je ne peux pas vous donner un témoignage précis, mais il y a à peu près 8 ans, j'étais dans une conférence pastorale avec des pasteurs luthériens et réformés de région parisienne, et j'ai eu l'inconscience de parler de la Concorde de Leuenberg. Et aussitôt, il y a un collègue réformé, qui n'était pas forcément représentatif de tous les collègues réformés. Mais en tout cas, il y a un collègue réformé qui m'a dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu as à citer ce vieux texte ? Un texte de 1973, tu n'étais même pas né d'abord, et ce texte est complètement périmé pour aujourd'hui. Nous sommes passés à autre chose. » Eh bien, manifestement, ce collègue, il y a quelque chose dans la réception du texte qu'il n'avait pas perçu, car l'année suivante, ce texte de la communion de Leuenberg devenait la référence sur laquelle le mouvement d'Église protestante unie entre luthériens et réformés s'est mis en marche. Et cette union a abouti en 2013. Et aujourd'hui, dans toute cette Église, tout le monde ne parle plus que de la Concorde de Leuenberg. Voilà, simplement un an avant, le texte paraissait oublié. Et même un pasteur qui est d'ailleurs, je ne le citerai décidément pas, mais je vous garantis qu'il s'agit d'un collègue érudit, savant, tout à fait intelligent, mais il n'avait pas du tout perçu la portée de ce texte. Alors, je crois que dans la réception des textes, il faut se donner le temps de la confiance. Nous en sommes à peu près au même moment. Avec le texte que nous recevons aujourd'hui, peut-être que la même chose va se produire. Peut-être que 2017... sera déjà très réussi. Peut-être qu'en 2017, ce sera encore un peu difficile. Peut-être que vous allez avoir des jeunes protestants zélés qui vont ricaner, ou des jeunes séminaristes pleins de fougue qui seront en pleine crise identitaire, vous savez, et qui vont vous dire que ce texte, manifestement, n'a servi à rien. Et pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans peut-être, ils auront raison. Et c'est l'histoire de Job et des moqueurs, vous savez, dans la Bible, les amis de Job, qui ont des arguments théologiques excellents pour le convaincre que devant Dieu, il a tort. Et puis à la fin, l'histoire se renverse. La veille de la chute du mur de Berlin, personne ne savait que le mur allait tomber. Donc pendant des années, vous allez trouver des personnes qui auront de bons arguments pour vous dire que ce texte n'a pas fonctionné, que théologiquement, il n'est pas bon. Et puis tout à coup, un jour, il y aura quelque chose qui va se passer. Et c'est ce jour-là que ce texte trouvera sa réception. Donc, même si, c'est ce que dit tout le monde, actuellement nous sommes dans une période où l'écuménisme a un peu perdu sa montre, comme moi, ou moi comme l'écuménisme, on ne sait pas toujours l'heure qu'il est, mais ce n'est pas parce qu'on a perdu sa montre que la journée va forcément mal se passer. Donc je crois que l'écuménisme ne sait pas exactement quelle heure il est dans la réception de ce texte, mais je suis certain que le jour arrive. Merci.
Merci beaucoup, Frédéric.
C'est l'objet.
Voilà, je récupère ma montre. Voilà, donc, je ne sais pas, vous avez attiré notre attention sur un bien fondé de la critique de Ulrich Körner, mais vous avez aussi attiré notre attention sur certains points de ce texte qui ont pu surprendre un lecteur. Par exemple, on ne cite pratiquement pas les écritures, ou bien, par exemple, la fin du texte, ou un texte qui a toujours parlé en nous, nous voulons écrire ensemble, et tout à coup, voilà, on donne la parole aux luthériens de manière très différenciée. Je ne sais pas si sur ce point-là précis, hein, de la réaction d'un lecteur, toi, Michel, qui es de la commission, tu voudrais dire quelque chose d'emblée ?
Oui, d'abord, merci beaucoup pour ce très bel acte de réception dont témoigne votre exposé. Vraiment, merci beaucoup. Oui, sur le premier point, c'est vrai que le document cite très, très peu les Écritures et ça peut surprendre d'autant plus que les textes antérieurs de la Commission, pour son entier, ont beaucoup cité l'Écriture. On va commencer par le texte « Église et justification ». Je peux déjà annoncer que le nouveau travail qui est engagé maintenant au sein de cette commission donne et va donner grande place à l'écriture. Ça sera de nouveau un travail sur un thème spécifique, en l'occurrence le thème du baptême. Je dirais simplement que, en réfléchissant à votre question, enfin, ou à votre constat, je crois que de fait, enfin, on peut très bien légitimement regretter, enfin, que le texte ne cite pas plus explicitement l'écriture. Si j'essaye de trouver une raison qui explique cela, je pense que c'est lié au statut même de ce texte. Encore une fois, au point de départ, ce qui nous était demandé, c'était un texte relativement bref. Où on en est fond, dans le dialogue œcuménique et comment envisager la commémoration de 2017. On ne demandait pas de faire un travail fondamental sur le baptême ou l'Eucharistie ou la justification. Et je pense qu'il y a quelque chose de cette intention initiale qui contribue à expliquer de fait cette absence ou quasi-absence de référence à l'écriture. Mais j'entends bien votre remarque et ça me conforte d'autant plus dans l'idée que le prochain document doit et devra, comme c'est prévu, faire grande place à l'écriture. Ce que je dirais, ce qui me semble caractéristique du document en question, c'est qu'il consacre par contre toute une section au thème écriture et tradition. On essaye de faire le point sur la manière dont luthériens et catholiques se réfèrent à l'écriture. Donc on ne cite pas nous-mêmes l'écriture, mais on dit où on en est sur cette question du rapport à l'écriture. Je crois que c'est assez typique, au fond, de la démarche de ce texte, hein, mais qui n'est qu'un texte de la Commission parmi d'autres. Alors sur l'autre point, c'est vrai, moi j'entends bien votre remarque. Dans la dernière section, on parle peut-être, enfin sauf le chapitre 6, mais enfin, je pense que vous faites allusion au chapitre 5, hein, au moment où les luthériens se réjouissent, les luthériens regrettent. Il y a de fait quelques paragraphes là où on entend moins le « nous », on entend plus le... Alors c'est un petit peu en contraste avec les chapitres 3 et 4, où là on parle constamment en « nous », c'est vrai. Un document de ce type, comment dirais-je, c'est très très difficile d'arriver à une parfaite harmonie quand on écrit un document à 20. Bon, évidemment, il y a certains qui tiennent la plume plus que d'autres, hein, forcément, mais quand même, hein, il y a des amendements. La dernière session, il y a eu amendements et amendements, et je dirais, toute proportion gardée, entendez-moi bien. C'est un peu comme Vatican II, hein. C'est-à-dire que vous avez des paragraphes qui sont pas, dans certains cas, sont pas complètement homogènes, sont une rupture de style. Bon, ça peut s'expliquer, voilà, par des. Il y a aussi la pression du temps qui joue, hein, parce qu'on était quand même talonné par les instances qui nous ont mandaté. Aurait voulu qu'on puisse terminer en 2012. Alors on a négocié, on a pu obtenir une année de plus, mais je vous dis, on a terminé en 2013. Pardon, j'aurais voulu qu'on termine en 2011, donc on a terminé en 2012, le dernier jour, à 22h. Hein. Voilà, et donc, je crois que les membres du groupe, les membres de la commission, au Japon, au mois d'août, on a pu, avec un an de recul, reparler ensemble de ce document, Et je crois que les membres de la commission sont même conscients d'un certain nombre de limites et d'imperfections. Mais voilà, c'est un jalon sur un itinéraire qui est à poursuivre. En tout cas, merci pour vos réactions.
Sur ce point, Michel Manœuvre.
Oui, je voudrais faire remarquer quelque chose. Ce document se réfère à d'autres documents, et d'autres documents qui sont des documents copieux, tellement copieux que l'un d'entre eux n'a pas encore été traduit en français. Il y a le document, la Déclaration commune sur la justification, il y a le document Église et justification auquel Michel a fait référence, mais il y a aussi le document sur l'apostolicité de l'Église, qui est un document extrêmement long, et tellement long que aucune revue et aucun traducteur n'a pris le risque de s'y lancer. J'avoue que moi-même, depuis quelques années, je me pose la question de savoir comment faire, mais ça veut dire qu'il faudrait plus d'un numéro d'Istina pour le publier. Et je pense, si je dis ça, c'est qu'il me semble que l'un des intérêts d'un document comme celui-ci, je dirais d'une certaine façon, son caractère hétérogène, qui à la fois historique et de compendium en quelque sorte des documents théologiques antérieurs, peut permettre une porte d'entrée vers une réception plus profonde du travail de la commission antérieure. On sait bien que un travail théologique demande un gros effort de subtilité et le lire demande une certaine formation d'être guidé. Et je me réjouis de voir que dans un certain nombre de groupes écuméniques, il y a des personnes qui se lancent dans ce travail-là. Mais ce n'est pas facile. Et je pense que l'un des intérêts du Conflit à la Communion, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité le traduire et le présenter, c'est qu'il permet d'avoir un aperçu de tout le travail qui a été fait antérieurement et, je l'espère, de donner l'envie au lecteur d'aller voir les documents, en quelque sorte, qu'il résume. Par rapport à Ulrich Körtner et à la réponse de Michel, mon insatisfaction peut-être, je pense que si effectivement c'est un document de la Commission catholique luthérienne, il me semble qu'il aurait été peut-être habile, voire délicat, qu'il y ait un paragraphe un peu plus important, ou un paragraphe qui mentionne différents réformateurs, les différents courants, et qui dise explicitement le choix qui a été fait de se limiter dans le cadre de cette commission. Et d'autre part, il me semble que ce document, mis à part l'un de ses apports majeurs qui est la relecture de l'histoire de la Réforme, se concentre beaucoup sur le travail théologique qui a été fait et que dans la perspective de la commémoration de 2017, tout ce que peut représenter le mouvement de la Réforme dans l'évolution de la société européenne, ce que pointe Ulrich Körtner aurait pu être évoqué, parce que ça rejoint aussi d'une certaine manière, un certain nombre de débats éthiques dont on sait qu'ils n'ont pas encore été beaucoup abordés dans les dialogues et qu'ils sont un lieu de défi pour le dialogue entre nos églises.
Oui, merci Michel. Je pense que les applaudissements nourris qui ont suivi votre intervention, Frédéric, étaient liés à votre lecture pleine d'espérance de la réception, qui est toujours de l'ordre, à la fois de l'ordre d'un grand travail, d'une grande attention, et en même temps de l'ordre de la surprise à laquelle on peut rester ouvert. Je pense que sur ce point, Vous convoquez un peu nos églises, nos groupes œcuméniques à se poser la question ouverte par le texte, c'est-à-dire de se poser de manière confiante la question ouverte par le texte, c'est-à-dire le texte ne dit pas comment il faut faire, mais renvoie à chacune des églises, via les différents groupes dans lesquels nous sommes, de se dire à quoi je me sens appelée, sur quel point je suis stimulée par une telle lecture, etc. Donc votre témoignage et votre espérance, je crois, est venu toucher des choses importantes, et que vous avez témoigné d'une lecture, Michel Mallet vient aussi de témoigner d'une lecture. Je pense que nous sommes tous des lecteurs et des potentiels ou déjà avertis, et donc il est possible maintenant que nous puissions entrer en dialogue avec vous tous, parce que justement la réception commence ainsi par l'échange et la diversité dans laquelle l'expérience de la diversité à laquelle nous sommes appelés et qui est une des conditions, nous a dit Frédéric, pour rester chrétien. Donc on ne parle peut-être pas des autres réformateurs dans le texte, mais celui qui va vous passer le micro s'appelle Calvin. Voilà, donc on va, si vous voulez bien, on va prendre quelques réactions, questions, hein, et puis quand on aura quelques-unes, eh bien on laissera.
Oui, merci bien de ces trois exposés. J'ai découvert, je suis très très jeune, j'ai découvert l'œcuménisme avec le Concile. J'avais 15 ans. Alors, depuis 50 ans, on a progressé, les théologiens ont travaillé, ont fait un peu de social et d'humanitaire ensemble, ont prié. Et maintenant, quels sont les actes que l'on peut avoir dans nos paroisses, dans nos diocèses pour les catholiques? Parce que, bon, c'est très bien de prier, mais il faut quand même aussi des commencements de preuves pour le petit peuple que nous sommes. Moi, je me sens plus proche de mes amis protestants des grandes églises, sans doute, que des officines tradies et intégristes de mon église catholique. Je préférais qu'on fusionne tout de suite, quoi. Hein. Parce que, bon, va-t-on attendre de se retrouver ensemble dans la même chambrée au paradis? Il me semble-t-il, et merci de l'avoir dit, Michel Fédoux, le temps presse par rapport à la sécularisation de l'Occident ici, et puis la mondialisation. Mais à quoi faisons-nous? Enfin, faudrait quand même pas qu'on soit comme les moines de Byzance. Mais vous avez pas fait du travail comme les moines de Byzance, parce que c'est très intéressant ce que vous avez fait. Mais il faut quand même faire quelques actes dans les années qui viennent. Et alors, si on le fait pas en 2017, ce sera peut-être en 2018.
Donc, autre réaction, question? Il y a une dame devant. Ah, il y a aussi une dame derrière, mais voilà. Le micro vous est passé, madame.
Si. Bon, moi, je suis une luthérienne allemande et je voudrais d'abord dire qu'on ne voit pas tout à fait en Allemagne la façon comme il a présenté le pasteur Chavel. Et surtout, on ne donne pas du tout autant d'intérêt à cette article d'un professeur d'université en Autriche. Mais nous sommes très préoccupés par la préparation de cette commémoration parce que, comme déjà l'a dit le bishop Younan qui a parlé après Jung à Genève, il a dit qu'il y a des gens qui souffrent, il faudrait avancer et arrêter de discuter éternellement. Donc en Allemagne, ils ont des idées très précises, ils voudraient qu'on organise déjà des protocoles pour des célébrations en commun et surtout aussi pour qu'on ait une hospitalité réciproque pour l'Eucharistie, qui reste quand même le plus grand problème à discuter pour Et sans ça, on ne peut pas être Église ensemble.
Patrick Jacquemont, je ne sais pas si je suis plus luthérien que catholique, j'essaie d'être chrétien. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons un exemple pratique, dans ce qu'on a redécouvert sur le Notre Père. Il y a la partie en « je », c'est le Christ. Alors qu'on avait attribué tout au Christ, qui était faux. Il y a la partie en « nous », ce sont les disciples. Et puis le Christ meurt, se relève, les disciples meurent, se relèvent, et nous avons le Notre Père. Et je crois que nous avons là une expérience, non pas de fusion, mais de prise en charge réciproque, de paroles très différentes, techniquement très différentes, celle du Notre Père en je et du Notre Père en nous, qui aboutit au Notre Père. Mais qui aboutit comment? Et c'est là que je crois qu'il faut insister sur ce que disait Frédéric, dans une action vivante et vitale de prière. Je ne suis pas sûr, tout en ayant beaucoup travaillé Église et Société, je ne suis pas sûr que le canal le plus fort de notre fusion ne soit pas dans ce « je » qui apprend à dire « nous », dans ce « nous » qui n'oublie pas le « je ». J'espère me faire comprendre, parce que maintenant, aujourd'hui, je pense que cette nouvelle exégèse, plutôt ce renouveau d'exégèse de notre Père est très éclairante.
Merci. Encore une intervention, et puis on verra si l'un de nos intervenants veut entrer en dialogue sur ce point. Encore de... Il y a une dame derrière, encore là-bas.
Je voudrais seulement dire, qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église, c'est le Christ. L'Évangile, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu qui doit nous guider, qui doit nous unir. Comment devons-nous obtenir cette unité? Par le même esprit du Christ. Si on a même le même esprit du Christ, le même amour. Le Christ a donné avec l'amour sa vie pour nous. Donc nous devons aimer. Aimer, ça veut dire avec le même esprit du Christ. Si nous n'avons pas le même esprit, nous ne pouvons jamais avoir l'unité. Il faut faire reconnaître. Parce que le Christ qui nous unit, sa parole, son amour. Et ça, c'est quelque chose de très, très simple. Excusez-moi.
Merci.
Tout simplement, je voudrais vous demander si vous pourriez nous donner la prière pour l'unité de Luther. Une prière très belle, très simple, et qui donne une direction peut-être plus intérieure, plus réaliste.
Quelqu'un devant encore? Et puis on va faire une pause.
Je voudrais simplement remercier le pasteur Frédéric Chavel pour avoir commencé en prenant l'image du mariage et des mariages mixtes. Moi-même aussi, je suis issue de mariages mixtes, réformés et catholiques. J'ai énormément souffert de voir la fermeture, malgré la condescendance des bonnes paroles de l'Église catholique, et la manière dont mon père a été traité. Dans cette célébration, on me dit, mais maintenant, tout a changé, etc. Effectivement, les choses ont changé depuis, au moins dans les formes. Mes parents ont pu dominer cette différence dans une unité beaucoup plus fondamentale. Donc, j'allais dire, tout est bien qui se finit bien. Mais enfin, tout de même, il reste qu'en dehors des bonnes paroles de quelques célébrations, rien n'a beaucoup changé du côté de l'Église catholique. Et là, je trouve que l'image était très belle, ce que vous avez choisi, je vous en sais gré, je vous remercie beaucoup. Mais c'est quand même un lieu où persiste, comment dire, à la fois la possibilité de dominer, d'assurer cette unité dans la diversité, et où en même temps s'inscrivent, et historiquement ou dans des familles et même chez des individus, des souffrances extrêmement dures. Parce que l'histoire de la séparation Moi, j'ai vu ça avec mon père en particulier. L'histoire, et puis de beaucoup d'autres personnes, l'histoire de la réforme telle qu'elle s'est inscrite dans l'histoire, notamment de la France, cette histoire-là est très, très longue dans la tête des gens. Elle dure beaucoup, beaucoup plus longtemps que toutes les... que tous les documents qui pourront dire que... voilà. Donc, il y a cette pesanteur historique qu'il faut continuer à interroger parce qu'il suffit de pas grand-chose pour que la douleur de la séparation ressurgisse parfois inopinément et qu'à ce moment-là, on soit sans parole pour l'interroger. Donc, à la fois, je vous remercie de votre analogie parce que je crois quand même que là aussi se jouent des choses de façon peut-être plus subjective, mais qui sont reliées à l'histoire commune de nos églises et de nos pays, de nos cultures, de nos politiques même à la rigueur, et qui complexifient peut-être les choses tout en les incarnant. Donc merci de votre début.
Merci, on va déjà faire un petit point à partir de là. L'idée, ce n'est pas de... comment dirais-je, qu'il y ait d'un côté des gens qui savent et de l'autre des gens qui ne savent pas, mais des gens qui ont lu un document et qui peut-être dire, tiens, à partir de ce que vous avez dit, ça me renvoie à tel paragraphe ou à tel manque de ce document, éventuellement, voilà. Donc, des lecteurs du document, qu'auriez-vous à dire par rapport à ce que vous venez d'entendre? Je ne sais pas quel est le premier qui voudrait... agir, réfléchir, entrer en dialogue.
D'abord, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que je réagirai au moins peut-être par rapport à la première intervention. Je pense que Michel Feydeau a bien rappelé que ce document... souligne un cinquième point de tension qui est la question de la définition de l'Église et qui est évidemment au cœur à la fois de notre cheminement et de bien des blessures parce que nous savons qu'il y a eu un certain nombre de documents romains qui, en rappelant la différence de conception de l'Église, ont été particulièrement blessants dans la manière dont ils ont dit que cette définition de catholique ne s'appliquait pas aux communautés ecclésiales de la Réforme, puisque c'est l'expression qui était employée. J'ai été frappé en entendant le premier intervenant, je dirais d'une certaine façon, de la tentation que nous pouvons avoir au cœur même du dialogue écuménique. Excusez-moi de réagir un peu personnellement. Lorsque vous avez dit « je me sens plus proche des luthériens que de certaines officines traditionnalistes », je peux le comprendre et éventuellement vous ressembler. Mais il me semble que le danger et la difficulté, c'est toujours de faire des choix. C'est-à-dire de se résigner à une rupture de communion à l'intérieur éventuellement de mon Église pour me rapprocher d'une autre Église. Ce qui est évidemment le grand défi, c'est d'arriver à progresser ensemble. Parce que si j'ai été intéressé à traduire le texte de M. Körtner dans la revue, c'est que cela nous permettait d'avoir un point de vue réformé et que nous sommes aussi, dans l'Église catholique, engagés dans 15 dialogues, y compris avec l'Église orthodoxe. Et on voit bien, peut-être, qui trop embrasse mal étreint, mais la très grande difficulté, à la fois à dialoguer avec des partenaires qui ont une histoire, qui ont des blessures, qui ont des compréhensions différentes. Et nous voyons que même lorsque ces partenaires dialoguent entre eux, il n'y a pas toujours homogénéité des différents dialogues entre eux, et que les amis de mes amis ne sont pas forcément mes amis, pour reprendre une boutade, et que les acquis d'un dialogue entre deux partenaires ne permettent pas forcément d'aboutir à un accord entre les deux autres. Et donc, je pense que ce que ce texte qui a une résonance particulière en France du fait d'un certain passé douloureux de dialogue entre nos églises, j'espère qu'il nous stimulera à continuer à approfondir les questions théologiques qui sont soulevées, parce que la tentation, nous voyons bien que l'une des crises actuelles, c'est la crise des institutions, que l'Église a un aspect institutionnel et que nous serions tentés, d'une certaine façon, comme beaucoup de gens qui ont des pluri-appartenances ou des itinérances ecclésiales, de passer par-dessus le mystère de l'Église. Mais ce qui est quand même au cœur de l'Évangile, c'est la volonté du Christ de rassembler. Et il n'y a pas de rassemblement sans une organisation. Et l'un des débats, c'est précisément celui-là.
Merci. Frédéric Boulier.
Et moi-même, je voudrais vous proposer quelques réactions. D'abord, je voudrais revenir un tout petit peu, parce que je crains de ne pas avoir été assez explicite. Mais voilà, je savais que le temps des questions permettrait de repréciser les choses, sur le fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce document, disons le résultat du groupe de travail. C'est vrai que dans ma lecture, je suis tout de suite allé vers des enjeux d'interprétation, ce qui soulevait des questions. Mais par exemple, sur l'aspect biblique dont on avait parlé tout à l'heure, dans mon esprit, c'était aucunement une faiblesse du document. Je crois que c'est au contraire sa juste sobriété, à savoir, il n'était pas, puisque pour moi, quand on cite la Bible, le document prend tout de suite plus la tournure de vivre ensemble la foi et prier ensemble, alors que quand on cite les documents de la tradition, c'est plus la tournure de lire ensemble la tradition. Et je crois que le texte a assumé le fait qu'il en était là et pas encore dans un vivre ensemble. Donc pour moi, justement, le texte est très correctement dosé. Donc de la même manière, sur ce moment où je sentais, et puis ça a été confirmé, différence entre ce qui est dit par des luthériens sur la réjouissance et les nécessités de regretter certaines choses, et puis à un moment où les catholiques sont moins explicites. Je ne crois pas que ce soit une faiblesse du document. Je pense que les luthériens participants se sont sentis prêts à dire ça. Pour les catholiques, les choses dans l'état donné se situaient autrement. Voilà, le document fait le travail qui est possible à un moment donné. Et vraiment, je crois que c'est remarquable aussi parce qu'un autre aspect pour lequel j'apprécie le document, c'est qu'il est lisible, donc il a une vraie possibilité d'être reçu par beaucoup de monde, à la différence des documents plus techniques que citait Michel Malèvre. Deuxièmement, il y avait plusieurs interventions qui ont été faites sur l'articulation entre travail, disons, dialogue écuménique, à un niveau plutôt théologique, et prière écuménique, vécu écuménique ou des actes écuméniques. Il y avait ça dans certaines questions. Quand est-ce qu'on avancera finalement, ou j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé. Moi d'abord, je ne fais pas une différence si tranchée entre ce qui relève de la théologie et ce qui relève de la prière, même si évidemment c'est une distinction qui a tout son sens, mais je crois que le travail théologique est évidemment est déjà entièrement lié à une démarche de prière, et je crois que la prière est largement nourrie par la théologie. Aussi, là je citerai John Gibeau, qui était donc dans le cadre de foi et constitution, donc du travail œcuménique qui est fait au niveau mondial, chanoine John Gibeau, qui à un moment donné essayait d'exprimer l'utilité des dialogues œcuméniques, donc des écrits théologiques, en faisant la comparaison avec la situation de résolution de conflit. Il disait, quand on est en résolution de conflit, si on arrive sur le conflit de manière directe et brutale, souvent on n'arrive pas à grand chose, et parfois il faut prendre le temps de la médiation, il faut prendre le temps de poser certains textes. Et il disait, la théologie, c'est dans le langage des églises le mode de résolution de conflits qui est utile pour régler leurs différends. Et ça, je crois que c'est une option très juste, à savoir que le travail théologique et le travail de ces textes n'est absolument pas inutile. Je suis persuadé qu'ils convergent vers une communion dans la pratique, dans la foi. Cette conviction-là, je l'ai parce que je l'ai vécue ces dernières années dans le mouvement de l'Église unie qu'on a maintenant en France. Je rappelle par exemple la structure du document de Leuenberg que je citais tout à l'heure, ce très vieux texte de 1973. La structure de ce document part d'une compréhension commune, donc à un niveau plutôt académique. Puis un accord sur la lecture de l'histoire. C'est très proche de ce qui se passe dans le document du conflit à la communion. Mais ensuite, dans le même document, ces deux premières parties posées permettent d'aller vers une déclaration de communion ecclésiale, et cette déclaration de communion ecclésiale, qui n'était en 1973 encore qu'un appel, laissait ouverte la question de la réalisation de la communion ecclésiale. Et cette réalisation, en tout cas dans le contexte des luthériens réformés français, a eu lieu en 2013. Donc c'est un texte qui non seulement dessine cette liaison d'une chose à l'autre, mais en plus nous l'avons vécu. Donc il y a vraiment un lien d'impulsion depuis la théologie vers ce que vivent les églises. L'expérience, parce que j'ai eu la chance au sein de mon église, donc maintenant l'Église unie, de pouvoir être de ceux qui travaillaient les textes de formation de cette nouvelle église, et je peux vous dire que pendant qu'on travaillait ces textes, on a beaucoup changé. Sur plusieurs points de ma théologie, de mon ecclésiologie, je dis des choses où je pense et je partage des choses très différentes par rapport à il y a 5 ans. Donc vraiment, ce travail sur les textes n'est jamais sans effet sur ce qui se passe dans la prière et ce qui se réalise concrètement dans les communautés. Simplement, encore une fois, on n'a pas la montre en main. Donc c'est parfois difficile. Dernière chose à propos de l'équilibre entre joie, le fait que 2017 puisse être une occasion joyeuse, et la question de la peine, des raisons de regretter. Et aussi à propos de certaines choses dans les interventions qui évoquaient certaines douleurs, ou des douleurs vécues sur des siècles, et qui ne s'effacent pas comme ça sur une décision optimiste ou sur un état d'esprit optimiste, comme je pourrais avoir envie de vous présenter. Là, je crois qu'effectivement, c'est très sérieux, à savoir que la commémoration, j'abonderai tout à fait avec ce que disait Michel Fédou sur la commémoration, à savoir que même si, en tant que luthérien, j'ai envie de partager une joie profonde sur ces événements, je crois qu'il est juste d'utiliser un mot comme commémoration qui inclut aussi une part douloureuse. Moi, je ferai le parallèle avec, dans la Bible, ce qui est vécu par Israël au retour d'exil. À savoir qu'ils reçoivent un événement qui a été compliqué, qui les a mis à distance de Jérusalem, qui a mis une partie du peuple à distance d'une autre. Et lorsqu'ils reviennent d'exil, dans les livres d'Esdras et Néhémie, notamment, Israël décide qu'il faudra commémorer cet exil et s'en souvenir. Donc je crois qu'effectivement, par rapport à la portée de ces blessures, notre commémoration doit pas simplement être toute projetée dans une joie qui oublierait le passé, mais elle doit porter un souvenir riche de réflexion.
Si, Michel.
Très brièvement, dans ce que j'ai entendu, diverses interventions, il y a beaucoup de choses qui sont d'abord à recevoir, à accueillir, avec beaucoup de reconnaissance. C'est comme ça que l'œcuménisme avance. Ce que je dirais simplement, c'est d'abord que toujours se remettre dans cette perspective historique, nous venons de très loin. Nous venons de très loin. On a fait allusion quand même au passé, pour ce qui est de la France, pour répondre d'autres pays aussi. Nous venons de très loin en matière de relations entre Églises. Et de ce point de vue, je trouve que nous sommes d'abord invités à un acte de gratitude pour ce qui a été donné depuis plusieurs décennies. Malgré toutes les difficultés, malgré les allers-retours, les marches en arrière, l'évolution dans le champ de l'œcuménisme n'est jamais une évolution linéaire. Hein. Il y a des moments où on régresse, puis de nouveau on avance. Bon. Mais globalement, quand même, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui ne s'étaient pas passées avant. Il y a quelque chose de l'ordre d'un événement, d'événement au pluriel. Alors, on pourrait prendre des exemples. Bon, on a évoqué la déclaration d'Augsbourg, 1999. Mais on peut évoquer aussi, à partir de la visite, Benoît XVI s'est rendu au monastère où Luther avait vécu, un acte symbolique, significatif. Bon. On peut évoquer, dans un tout autre ordre de choses, ce qui s'est vécu, se vit parfois dans des communautés, dans des paroisses. Mardi prochain, il y aura à l'église Saint-Ignace une rencontre œcuménique avec une paroisse de Paris. Voilà, des choses comme ça existent. Et je crois que c'est important d'en avoir mémoire. Parce qu'on pourrait soit les avoir oubliés, soit tout simplement ne plus y faire attention. La question, l'un des acquis aussi, enfin quand même depuis plusieurs décennies, c'est quand même tout ce qui s'est passé au point de vue du travail exégétique, enfin le travail sur l'écriture. Des protestants et des catholiques ont pu avancer, parfois ensemble, dans une meilleure connaissance de l'écriture. Bon, on pourrait encore ajouter d'autres éléments. Et donc je crois à travers cela, ce qui est en jeu, c'est la question, pouvoir se poser cette question, qu'est-ce que Dieu, au fond, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous a donné depuis plusieurs décennies, de nouveau, qui ne s'était pas produit dans les générations, dans les siècles antérieurs. Et être dans cette perspective, ça peut aussi, vraiment, ça peut beaucoup aider à trouver une sorte d'énergie pour aller de l'avant. Alors, deuxième chose que je voulais dire très brièvement, c'est que les relations entre églises sont d'abord de l'ordre de la vie, elles incluent aussi un travail de pensée. Voilà. Bon, il se trouve, dans la commission qui a produit ce texte, c'est une commission théologique. Il y a d'autres commissions, il y a des quantités de groupes qui sont suscités par les instances catholiques, luthériennes, réformées. Mais il y a entre autres des instances qui ont pour mission de travailler sur un terrain théologique. Alors, il n'y a donc pas que cela, c'est une chose parmi d'autres. Et cette chose-là, cependant, est nécessaire. Parce que le chemin difficile vers la pleine communion implique un travail de vérité, de recherche commune de la vérité. Et ça passe par des rencontres, par des discussions, sur des questions qui sont parfois graves. On évoquait la question de l'Église, comment comprendre l'Église, est-ce qu'on peut dire l'Église est sacrement du salut ou pas, comment penser le rapport entre l'Église visible et l'Église invisible. On est en présence là de questions importantes qui attendent de nous un effort de pensée, même si, bien sûr, les relations entre églises ne se réduisent absolument pas à cela. Mais il faut passer par là. Voilà. Et quand même, l'expérience montre que, dans plus d'un cas, le travail de certains théologiens, tout à l'heure j'évoquais Yves Congar, ou bien des textes qui ont été produits par des groupes œcuméniques, ont pu contribuer à favoriser quelque chose de l'ordre d'un événement œcuménique, ou d'une prise de conscience œcuménique. Donc c'est important. Mais c'est un service. C'est un service qui précisément doit faire tout ce qu'il peut pour favoriser une marche vers la communion, la pleine communion des chrétiens. Alors, ce que je dirais simplement en terminant, c'est que pour moi, mais je le dis simplement de façon, simplement quelques trois phrases, si vous voulez, trois points quoi, qui me semblent tout à fait importants à avoir présent à l'esprit quand on regarde vers l'avenir, compte tenu de ce qui nous a été déjà donné depuis quelques décennies. C'est premièrement, je dirais, la poursuite et l'approfondissement d'une lecture commune des Écritures. Voilà. Je crois vraiment que plus nous pourrons avancer ensemble, catholiques, luthériens, réformés et autres, dans une lecture commune des Écritures, plus nous sera donnée une lumière pour aller de l'avant par rapport aux questions qui nous divisent encore entre Églises. Voilà. Deuxièmement, à la suite de ce que disait Frédéric Chavel tout à l'heure, je soulignerai beaucoup la dimension spirituelle de l'expérience œcuménique. L'expérience œcuménique comme expérience spirituelle. Dans le cadre d'un groupe œcuménique, pas seulement la commission dont on a parlé ce soir, mais d'autres groupes œcuméniques aussi, on éprouve fortement que ce qui est dit ne tient pas son authenticité simplement du contenu, mais de la manière dont cela est dit et de la façon dont cela respecte ou non justement les valeurs évangéliques, avant tout la valeur évangélique de la charité, de l'agapé. Donc l'expérience spirituelle, c'est un point clé dans la marche du dialogue œcuménique. Et le troisième point sur lequel je voulais dire un mot, c'est celui par lequel j'ai terminé mon intervention tout à l'heure, ce que Congar appelait le vaste monde. C'est le titre du livre de Congar, « Vaste monde, ma paroisse ». Je crois qu'il y a une sorte d'urgence. Le travail œcuménique, il suppose à la fois une infinie patience et un sens infini de l'urgence. Il faut essayer de vivre avec l'un et l'autre. Alors, infinie patience, parce que ça demande beaucoup de travail, on ne peut pas aller trop vite, il y a des médiations à respecter, mais aussi un sens éminent de l'urgence, parce que le monde attend que, justement, des chrétiens qui ont été baptisés, qui ont reçu le même baptême, puissent un jour rendre un témoignage commun dans ce monde qui comporte aussi beaucoup d'autres religions, je le rappelais tout à l'heure, et aussi, bien sûr, l'athéisme, l'indifférence. Je crois que c'est dans ce contexte du vaste monde qu'il faut prendre conscience plus que jamais de l'urgence du travail œcuménique à poursuivre.
Que dire après cela ? La montre œcuménique nous rappelle que le temps imparti pour nos échanges se termine. Voilà, une personne avait demandé le texte de la prière pour l'unité attribuée à Martin Luther. Je vous conseille de faire sur Google « Luther, prière pour l'unité » et vous tombez de suite sur elle. Ouais, c'est une prière qui nous rappelle que en cette semaine, qu'on ne pourra jamais séparer, comme nos interlocuteurs nous l'ont dit, théologie, vivre ensemble et prière. À ce sujet-là du vivre ensemble, je voudrais dire une autre parole de Congar. C'est qu'à un moment donné, il disait que tout dans ses souvenirs, que beaucoup d'occasions lui ont été données. Il n'avait pas cherché, voilà. Et il a eu des occasions de rencontres, et c'est ça qui était décisif dans sa vie, des vraies rencontres. Seulement, il disait, seulement l'occasion, elle se présente souvent à celui qui y est ouvert. Alors, je crois que peut-être que ça peut être une de nos intentions de prière en cette semaine, de rester ouvert aux bonnes occasions, aux rencontres qui peuvent transformer, ouvrir le regard, ouvrir le cœur, ouvrir l'intelligence, et permettre que le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, soit en conversion, et donc travailler à cette unité que Martin Luther demande dans cette prière. Voilà, bon retour et merci d'être venu chez nous. Encore une fois, deux choses. Si certains veulent la revue Istina, donc il y a encore quelques numéros ici. Et à la sortie, vous trouverez des urnes qui permettent de participer aux frais, si toutefois vous êtes content de la soirée que nous vous avons offerte. Merci.